Sono le 22:30.
È che gli stati nu
I'm gonna hold you! I'm gonna hold you! Radio Libertaire 89.4 The Post Non Radio Show comme tous les vendredis soirs, bonsoir.
Bonsoir Renek.
Bonsoir Serge, bonsoir Guy, bonsoir Yves.
Bonsoir à toutes
donc,
et à tous.
Bonsoir à tous.
Bonne année.
Bonsoir à tous. Bonne année. Si, si c'est possible.
Si c'est possible.
Ah oui, bonne année.
Oui.
Si c'est possible.
Bonne santé, parce que oui, c'est bien aussi. Ça.
Si c'est possible. Également.
Ah, c'est bien aussi, oui, c'est du luxe.
Si c'est également possible, évidemment. De nouveau en direct sur l'antenne de cette merveilleuse radio, nous ne cesserons jamais de le répéter, évidemment, puisque c'est la vérité vraie. Radio Libertaire, c'est la radio de la Fédération anarchiste. Radio Libertaire, c'est je fais ça, comme ça je le fais plus. Radio Libertaire, c'est radio-libertaire.org, anarchiste.info, le site de Mixcloud, les émissions, enfin un tas d'émissions qui ont leur Mixcloud, quoi d'autre. Après, je vais pas développer hein, tout ce que les différentes émissions ont comme support de stream, hein. Ça c'est à eux de le faire. Et puis, prochainement, en DAB, à partir du 9 janvier. En même temps que l'ouverture de la librairie. Alors, j'ai pas d'annonce à faire, puisque la librairie est... Est fermé, mais je voudrais juste, je ne sais pas si quelqu'un l'a fait sur l'antenne, je vais le faire, histoire de le 12 et 14 janvier, donc c'est les 30 ans du soulèvement zapatiste 1994-2024. Le 12 janvier, ce sera à l'Aéri. Ça se trouve à Montreuil, au 57 rue Étienne Marcel. C'est à partir de 18h, cantine mexicaine, bavardage rebelle, etc., musique, blablabla. Le 14 janvier, ça sera au CICP, Centre International de Culture Populaire, au 21 Terre, rue Voltaire, dans le 11e. Et ça sera à partir de 17h. Et c'est un concert en soutien aux prisonniers politiques au Mexique. Ok. Et puis, deuxième annonce. C'est la coordination anti-répression et la Legal Team Paris. Alors, je ne sais pas qui sont ces gens, mais bon. Quand même, je vous en informe. Ils vous invitent le 13 janvier... à la parole errante, à une roller disco et des concerts. Donc, c'est à partir de 16h, du roller et du patin à roulettes sur de la musique. Il y aura de la nourriture, il y aura un tas de choses, des concerts punk, des ateliers sérigraphie sur t-shirt, sur tote bag, un bar, etc., etc. Donc, c'est la coordination anti-répression qui n'est ni un syndicat, ni un parti, ni une association. En fait, aide les gens à se défendre quand ils sont aide les gens quand ils sont en garde à vue, quand ils vont au tribunal, ils manifestent devant les tribunaux, ils soutiennent en tout cas. Voilà, ils sont anti-répression policière, hein, 100 ans. Donc, ils sont là quand il y a des gardes à vue, des comparutions immédiates, de la prison en centre de rétention. Ils mettent des numéros d'appel, de permanence, ils essayent d'aider sur les frais d'avocat. C'est le c'est le boulot de ce collectif. Voilà, donc je vais pas vous lire tout. C'est intéressant quand même ce qu'on a reçu comme information, mais je pouvais pas tout vous lire. Mais c'est à la parole errante le 13 janvier à partir de 16h. Voilà, c'est pour les annonces de ce soir. Alors, qu'est-ce que je fais? Je mets un morceau, on attaque tout de suite.
Alors, Yves, on attaque tout de suite. Guy, on attaque tout de suite ou on met un morceau de musique?
Ouais, un morceau de musique.
Un morceau de musique. Allez, allons-y.
Dis donc, Zapata, vous avez...
Yeah.
Radio Libertaire de Poste Non-Radio Show. Donc il s'agit du mouvement zapatiste, c'est-à-dire du mouvement des années 90 qui se réclame de Zapata. Et non pas depuis l'existence de Zapata au 19e siècle.
Voilà. Voilà. Comme ça, c'est précisé. Yves, tu avais quelque chose à nous dire à propos de du compostage et des récupérations des déchets.
J'hésite à commencer par ça.
Ah ben, si tu veux, commence par autre chose.
Je vais commencer par la COP 28 avec un article de JLP du Canard Enchaîné de cette semaine, donc daté du 3 janvier.
Oui.
Le titre de son article, c'est « Historique Ips ». Nombre de médias, par exemple Le Figaro, passant en revue les temps forts de l'année 2023, ont salué avec enthousiasme l'accord de la COP28 à Dubaï, qualifié d'historique. C'est pas les seuls d'ailleurs. Il suffisait que le mot énergie fossile y figure pour la première fois en toutes lettres. Madame Valérie Masson Delmotte nous dégrise. Elle est paléoclimatique, elle a été co-présidente du groupe numéro 1 du GIEC de 2015 à 2023. Elle sait de quoi elle parle, et dans une tribune du Monde du 32, je vais laisser passer, elle détaille une à une les raisons pour lesquelles cet accord n'a rien d'historique. Elle dit le décalage entre objectifs affichés et faiblesse des engagements, ça c'est le point numéro 1, car pour limiter le réchauffement à près de 1,5 degré, il faudrait abaisser de 43% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Or, les engagements concrets pris par les pays présents à la COP vont mener à une baisse de l'ordre de 2 à 5%. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'accord évoque une transition vers l'abandon des énergies fossiles, mais sans objectif chiffré pour 2030. Mm-hmm. Donc, le Canard ajoute des mots en l'air. Trois, la faiblesse, je cite cette chercheuse, elle est paléoclimatologue. La faiblesse de ces engagements implique inéluctablement la poursuite du réchauffement planétaire au-delà de 1,5 degré C d'ici une décennie. C'est inéluctable. Or, le texte final de la COP28 passe sous silence ces implications de long terme, et donc rien pour nous prémunir contre des impacts attendus. Quatrième point, le fameux fonds pertes et préjudices qui doit permettre aux pays les plus vulnérables de se protéger n'est abondé qu'à hauteur de 700 millions de dollars. Valérie Masson Delmotte remarque que cette somme équivaut, je cite, au salaire des trois footballeurs les mieux payés au monde, alors que les coûts anticipés en 2030 dépassent largement 100 milliards de dollars par an. 100 milliards de dollars par an. Une goutte d'eau donc. Et cinq, il n'y a pas un mot dans l'accord final sur les échanges de crédit carbone qu'il faudrait mettre en place de façon à ce que soit associé à chaque tonne de gaz à effet de serre émise un financement des pertes et dommages. Résultat, dit le Canard, c'est l'enfumage qui est historique.
Oui, bah, apparemment, ils disent que c'est un accord historique, mais ça laisse encore beaucoup de temps à l'énergie fossile de polluer et de réchauffer la planète, a priori, si j'ai bien compris, Yves.
Oui, c'est de toute manière... Qu'est-ce qu'on peut attendre, vu la présidence de cette COP28, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette COP28, sinon de l'enfumage? Et la prochaine fois, c'est à Bakou, ça fait rigoler. Bon, voilà.
Pourquoi à Bakou?
Bah, c'est eux qui...
Mais je veux dire, Bakou, c'est où?
Bakou, c'est en Azerbaïdjan.
Ah.
C'est la capitale de l'Azerbaïdjan.
Et ils sont gros producteurs de pétrole.
Ah, ok. Donc tout ça, c'est vraiment...
C'est au bord de la mer Noire. Hein.
Tout ça, c'est...
De la mer Noire ou...
Oui, c'est ça.
Enfin, tout ça est un vaste foutage de gueule, en gros, quoi.
Bah oui, mais elles servent à rien, ces COP28. Mais bon, il faut les faire quand même, ces COP.
Non, c'est pas au bord de la mer Noire. C'est au bord de Caspienne.
Ah, peut-être. Oui.
Oui. Alors, parce que ça, la mer Noire, c'est là où la Russie n'arrive plus à sortir ses bateaux.
Exactement.
Donc c'est sans compter...
C'est ça qui commence quand même à être un peu ciblé maintenant.
C'est sans compter qu'en 2028 ou 2030, les Jeux d'hiver olympiques, les Jeux olympiques d'hiver encombrés à l'Arabie, si vous dites.
Encore ?
Les Jeux olympiques d'hiver. D'hiver. Voilà. Et on sait très bien que les hivers sont très hivernaux.
Oui, bien sûr.
Très enneigés. Voilà. Bon, c'est sans commentaire. C'est une vaste fumisterie. De toute façon, nous, on va déjà y avoir droit dans quelques mois.
Voilà.
Voilà, donc je voulais commencer par ça. Puis ensuite, j'ai effectivement deux articles sur les biodéchets, puisque y a un texte qui oblige à séparer des déchets, les déchets dits alimentaires, c'est-à-dire les épluchures, de légumes, éventuellement plantes, éventuellement... Alors là, il y a deux écoles, les restes d'origine animale ou de poisson. Alors, il y a des endroits où on peut et des endroits où on ne peut pas. Moi, chez moi, on ne peut pas, mais sous le métro, on peut. Qu'est-ce qui se passe si finalement rien n'a été organisé? Alors, 4 ans après la loi, rares sont les communes, c'est-à-dire Lyon, Grenoble, Lorient, Bures-sur-Yvette, La Motte-Beuvron, etc., qui s'y sont préparés à ce...
cette disposition.
À collecter les biodéchets.
Oui.
Les biodéchets, ils remplissent. Donc, c'est parti. Je vais partir sur cet article du Canard. Donc, il s'appelle Les épluchures ont la vue dure, toujours du même JLP. Tous ces épluchures, ces restes de repas, le marc de café qu'on jette à la poubelle, quel gâchis, dit-il. Chaque Français produit 83 kilos par an. Et ces biodéchets remplissent un tiers de nos poubelles ménagères. Mélangés à d'autres détritus, ils sont brûlés, ce qui est énergivore, ou enfouis, et ils dégagent du méthane. Et heureusement, depuis ce 1er janvier 2024, tout est censé changer avec la loi AGEC, dite anti-gaspillage, votée en 2020, qui oblige les communes à effectuer un tri à la source à partir de cette date. Ça oblige les communes. Les biodéchets, on va enfin les valoriser. Et cet or vert va servir à produire du biogaz et du compost. Mais rien n'est prêt ou presque. 4 ans après la loi, rares sont les communes donc, qui s'y sont préparées. L'écrasante majorité des autres, non. Et moins d'un Français sur 3 a aujourd'hui accès au tri sélectif des biodéchets, d'après l'ADEME. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est simple, rien n'est prévu pour les communes récalcitrantes. Pas d'objectifs contraignants, pas de sanctions. Note Pauline de Brabander de Zero Waste France.
Zero Waste France, oui.
Bon.
Zero Waste France.
Oui,
France.
D'accord. Et c'est un A qui est écrit. entre parenthèses, France Inter 1912, le mec de mauvaise foi. C'est comme si l'État leur donnait un passe-droit pour ne pas mettre en place un tri à la source des biodéchets. Il faut dire que ça demande de l'organisation. Et selon les cas, les communes peuvent mettre les points verts d'apport volontaire, comme pour le verre, ou des composteurs collectifs dans les immeubles, ou faire des collectes en porte-à-porte. Il ne s'agit pas d'envoyer des employés municipaux taper à votre porte en criant « Épluchure, épluchure !» mais de vous donner un bio-seau à mettre dans la cuisine.
Un
bio-seau.
Il y avait déjà un seau bio.
Il y avait déjà les seaux nombreux, et là, il y a un bio-seau à mettre dans la cuisine et des sacs en papier pour y emballer vos biodéchets qu'on viendra collecter une fois par semaine. Ou pour ceux qui aiment ça, les lombricomposteurs. Bref, rien n'est impossible, rien n'est possible sans imagination ni volontarisme, mais surtout sans moyens. Or, la mise en place revient cher, dit cet article, 350 euros par habitant en milieu urbain, d'après Nicolas Garnier d'Amorce. C'est repris par l'Humanité le 29-12. Et comme l'État n'est prêt à payer que 5% du surcoût occasionné, les maires poussent des cris. Ça va faire exploser la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Résultat, cafouillage, le cafouillage ne fait que commencer. On se demandait ce que c'était que cette fameuse écologie à la française dont se gargarise Macron. Là, c'est le mauvais esprit de JLP qui va s'exprimer quelques instants. Après la rénovation des passoires thermiques devenues le terrain de jeu des arnaqueurs, les zones à faibles émissions ZEF qui cafouillent dans les grandes villes, le bonus réparation qui tire la langue, l'embrouillamini des biodéchets nous le confirme. C'est le règne du grand n'importe quoi. Bah oui, je suis assez d'accord avec monsieur JLP.
Moi, j'ai toujours pas reçu ma petite boîte de compost.
T'as toujours pas ton seau bio.
Mon seau bio, oui,
moi,
absolument.
Mon bio seau.
Moi, je me rappelle qu'il y avait une affiche dans l'ascenseur. Maintenant, c'est des affiches électroniques, donc ça s'efface. Et c'était marqué qu'on pouvait avoir un petit seau à condition d'appeler une personne et un numéro de téléphone. Oui. Malheureusement, paf, dès que j'avais terminé de lire, l'image disparaissait pour céder la place à une autre. Donc, je bloquais l'ascenseur pour essayer d'avoir, et je suis jamais arrivé à avoir, et maintenant, le numéro de téléphone, et maintenant, l'annonce a disparu. Donc, j'ai trouvé chez IKEA, mais il faut commander par Internet parce qu'on ne trouve que dans les magasins à Grenoble ou à Lyon, je ne sais plus, des petites poubelles qui s'accrochent sous un placard de cuisine. 4,50€, c'est très compétitif. Mais bon, pour l'instant, je mets dans un sac plastique tout bête et puis je descends le résultat. Je vide le sac plastique. Voilà.
Mmh. Ah.
Le grand problème métaphysique étant, est-ce que je mets les arêtes de poisson et des os côte de porc, par exemple,
ou
je ne les mets pas. Et alors, chez moi, il ne faut pas les mettre. Alors, j'ai trouvé des articles sur Internet où ils disent qu'il ne faut pas les mettre parce que ça sent mauvais, ça attire les rats, etc. Bon, très bien.
Mais les épluchures aussi, ça va les attirer.
Nous, il ne faut pas les mettre parce que c'est un compost où on prend juste les déchets de légumes, de plantes, et pas ceux-là. Donc, mais par contre, ça n'attire pas les mouches, mais ça en crée. Et je dois dire que depuis qu'il y a ce truc à compost en bas de l'immeuble, il y a chaque année des petits moucherons partout. Enfin bon, c'est la rançon du progrès, disons. Tiens, voilà.
Ouais.
C'est fini avec les biosseaux et les épluchures de patates.
Ah non, mais après c'est beaucoup trop long parce que je voudrais vous citer ensuite ce qu'écrit Madame Sabine Barlès, qui est professeure d'urbanisme et d'aménagement à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, historienne des techniques et de l'environnement.
Oula.
Donc elle retrace dans un article qui n'est pas inintéressant, c'est pour ça que j'ai envie d'en parler, la gestion des matières organiques dans les villes au cours des derniers siècles. Et elle défend une stratégie de diminution des biodéchets ainsi que la création d'une véritable filière structurée de valorisation agricole. Voilà, donc je pourrais vous en parler parce que... Peut-être après un morceau de musique, non, ou je continue, parce que c'est un peu long, là, je vais être un peu long.
Ouais.
Parce qu'elle part du...
Elle parle du 8e siècle avant Jésus-Christ.
Du 18e, non, jusqu'au 18e, retrace. ça change pas.
Bah, les gens jetaient leurs ordures par la fenêtre.
Ouais.
C'est ça.
Bah, c'est pas ça, c'est que la ville était également très différente. C'est-à-dire que les gens cohabitaient avec les animaux dans la ville. Il y avait des lapins, il y avait des poules.
Des porcs.
Il y avait des vaches, il y avait des bouses de vaches, il y avait des bouses de chevaux. Et donc tout ça était ramassé par des gens dont c'était le métier, disons. D'ailleurs, on parle ça formait des bouts. Et ces bouts, ben je suis en train de déflorer mon artiste, qui est quand même dommage, mais on peut aussi le sucrer de cette façon. Mais ces bouts étaient donc collectés, et pour faire quoi ? Ben, on les emmenait à quelques kilomètres pour faire de l'engrais pour les plantes, pour les cultivateurs. Et historiquement, il n'y a pas de déchets. Tout est recyclé, au début. C'est plus tard... qu'on commence à considérer que c'est des déchets et à accroître le nombre de choses qu'on considère comme des déchets, puisque dans les décharges, on met des déchets. Et par contre, à propos de ce mot « boue », j'ai réalisé en lisant l'article, mais c'est un truc que je suis un imbécile de ne pas avoir pensé plus tôt, disons, mais comment appelle-t-on les gens qui ramassent les ordures, ou comment les appelait-on ?
Les bouseux.
Non, des éboueurs. Des éboueurs. Donc c'est bien les gens qui enlèvent les boues qui étaient dans Paris, bon, ben, pas seulement. Quoi.
Voilà. Dans les années 50, quand on passait du côté de Gonesse, justement, là où ils veulent construire aussi quelque chose, hein, Gonesse, c'était les gadous de Paris. Alors il y avait sans doute plusieurs autour de Paris, je sais pas. Hein. Mais nous, quand on descendait de là-haut, on connaissait des gens sur la banlieue, là. Ils nous disaient, les gadous de Paris, c'est là. Là où il y avait tous les champs de tulipes et tout ça. Et c'est vrai que c'était au moins des tas, je sais pas, de des épaisseurs incroyables. De, on ne sait pas même pas ce que c'était, parce que c'était déjà un peu transformé. Hein. C'était tout noir, d'ailleurs. Ouais, bah, absolument noir.
Elle dit qu'il y a deux choses. Il y a les boues ou les ordures. Alors, elle fait du latin, et donc elle dit ça vient de horridus, qui veut dire horrible. Et puis, l'autre partie, c'est... Donc ce sont des saletés, des immondices qui n'empêchent pas de les valoriser. Et puis l'autre, le mot déchet, ça vient plutôt du verbe choir, qui désigne ce qu'on n'utilise pas dans la fabrication et la transformation d'un objet. Les chutes de tissu dans la confection d'un vêtement, par exemple.
Tomber, quoi. Oui,
déchets. Oui. Et en fait, jusqu'à la fin du XIXe siècle, elle explique qu'il y a très très peu de résidus, surtout en hiver.
Non.
Où on consomme peu de légumes et pas de fruits. Les citadins consomment une grande partie de ce que nous jugeons actuellement non comestible, et ils l'utilisent pour nourrir les animaux, les chiens, les chats, les poules, les lapins, qui cohabitent avec les humains dans les immeubles. Et tout le reste est déposé dans la rue, avec les excréments des vaches et des chevaux qui y circulent. Et les citadins ont une obligation de balayage, et doivent constituer des tas de boue dans lesquels les chiffonniers récupèrent ce qui peut leur servir. Les boues sont ensuite évacuées par les employés de la ville ou directement par les paysans pour fertiliser les terres alentour. Et elles vont progressivement acquérir une valeur marchande. Et à la fin du XVIIIe siècle, avec la croissance de la population urbaine et la crainte de pénurie alimentaire, les paysans qui approvisionnaient les villes ont besoin de ces engrais et sont de plus en plus contraints de les payer. Et ensuite, il y a la révolution industrielle et notamment la création de... Ah non, c'est pas là, tiens, c'est encore le 18e siècle, qu'est-ce qu'elle raconte ? À partir de la fin du 18e siècle et avec la première révolution industrielle, la circulation des matières organiques fait l'objet d'une organisation de plus en plus rationalisée, de la maison jusqu'au champ. Les boues de rue sont mélangées avec des algues ou de la cendre pour les rendre encore plus fertilisantes, et des brevets sont déposés. Et plus généralement, le recyclage et la valorisation sont un des moteurs de l'industrialisation. Le ramassage des chiffons contribue à l'essor de l'industrie du papier. La collecte des os permet le raffinage du sucre, etc. Ces activités occupent des milliers d'ouvriers au sein d'entreprises et d'usines. Et si l'époque est quasiment zéro déchet en ville, ça ne veut pas dire que les usages ne polluent pas, car ils peuvent avoir des effets désastreux pour l'environnement. Donc, je suis en train de lire l'article de Mme Sabine Barlès dans Le Monde, daté du 5 janvier. Ensuite, il y a une période qui correspond aussi à l'émergence de l'hygiénisme. Donc, dans un premier temps, le recyclage et la valorisation vont de pair avec des politiques de salubrité urbaine. On a introduit la poubelle à Paris en 1883, changement important pour les chiffonniers, mais ça n'empêche pas la valorisation agricole. Au contraire, il existe une convergence entre les objectifs du recyclage et de l'hygiène. La ville est considérée comme une mine de matières premières au service d'un projet garantissant à la fois la salubrité urbaine, le dynamisme économique et la survie alimentaire. Et le ramassage des excrétats urbains agit à la fois contre la faim sortant du sillon et la maladie sortant du fleuve, écrira Victor Hugo. Alors les hygiénistes, pourtant, jugent certaines activités trop insalubres et vont les encadrer et les rationaliser. Et plutôt que laisser le chiffonnage s'exercer dans la rue, il va se créer des usines de trituration qui sont construites, qui ressemblent beaucoup à nos centres de tri d'aujourd'hui. Et pour éviter la poussière considérée comme responsable de la tuberculose, les rues sont progressivement pavées puis goudronnées, et avec la création des abattoirs et le développement d'automobiles, les animaux disparaissent des villes et deviennent moins organiques. Qui devine moins organique ? Petit à petit, seuls les biodéchets de la sphère domestique subsistent, et on assiste au XXe siècle à un déplacement de la production des déchets organiques de la rue vers la maison. Et paradoxalement, leur quantité augmente du fait des changements de mode de vie et d'une augmentation du gaspillage. À partir de la fin du 19e siècle, la découverte d'autres fertilisants marque un tournant. Les nouveaux engrais industriels, les phosphates fossiles, synthèse d'ammoniac à partir de l'azote de l'air, arrivent sur le marché et font directement concurrence aux engrais urbains. Leurs producteurs mettent en avant leur qualité constante et leur concentration. Dans un premier temps, la plupart des villes essayent de chercher de nouveaux débouchés plus lointains. À Marseille, on envoie les ordures par train fertiliser la plaine de la Croix, par exemple, mais ces dispositifs vont échouer car ils sont coûteux. Et la valorisation agricole des biodéchets est progressivement délaissée. Et c'est parce que ces matières organiques des villes deviennent inutiles que s'impose au XXe siècle l'idée qu'on peut les abandonner à la nature. Et c'est le début des grandes décharges, sources de pollution et de dégradation qui vont se développer en périphérie urbaine. Et l'idée de déchets, telle qu'on l'entend aujourd'hui, naît de cet abandon. Le législateur en donnera une définition officielle en 1975, à savoir tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon. Si elle sanctionne les dépôts sauvages, la loi entérine le droit de jeter tout ce qu'on destine à l'abandon. Elle nous laisse libres de décider ce qui est un déchet. Ce droit à l'abandon est aujourd'hui inscrit dans nos imaginaires. Jeter les déchets est devenu une évidence. Il est temps, dit-elle, de reconstruire un nouveau récit. Donc ce que dit Madame Sabine Barlès. Et donc elle dit, la personne qui l'interviewe, qui est Madame Claire Legros, qui recueille ses propos, elle lui dit « Depuis le 1er janvier, les collectivités doivent organiser le tri à la source des déchets organiques. Cette mesure marque-t-elle une étape dans ce nouveau récit ?» Réponse de Madame Sabrine Barthes. À première vue, récupérer les matières organiques semble une mesure positive. Mais au-delà même des difficultés de faisabilité, le dispositif est un miroir aux alouettes. Une façon de nous laisser croire qu'on agit sans aborder les problèmes de fond. Pour que cette collecte soit vraiment utile, il ne suffit pas de déposer un bac et d'organiser une tournée supplémentaire, il faut un objectif. Or, les villes concentrent un gisement d'engrais qui, si on le mobilise, peut contribuer à la nécessaire transformation de l'agriculture et à la sortie des engrais industriels, à la fois à l'échelle locale pour développer l'agriculture urbaine, mais aussi plus largement à l'échelle régionale. Car il n'existe pas de ville autarcique, c'est une illusion. Chacune entretient des liens avec les territoires qui l'approvisionnent et qu'elle peut approvisionner. Et il est logique et nécessaire que les villes rendent à la campagne ce qu'elles lui prennent, comme elles l'ont fait jusqu'au début du XXe siècle. Malheureusement, la question de cette complémentarité entre la ville et la campagne n'est pas abordée aujourd'hui. Pourtant, l'agriculture n'est jamais très loin de la ville. L'objectif n'est pas que le compost fasse des milliers de kilomètres, mais il peut en parcourir 10 à 20. Pour une région comme l'Île-de-France et le bassin de la Seine, où plus de 40% de l'espace est agricole, la récupération des fertilisants urbains permettrait, avec la généralisation d'un système de polyculture et d'élevage biologique, de sortir des engrais industriels. On sait que ça fonctionne, mais ça n'est pas à l'agenda politique. Question, quels sont les principaux freins à de tels changements ? Cette valorisation agricole des biodéchets se heurte à plusieurs obstacles. La production d'énergie continue d'avoir la faveur de nombreuses collectivités qui sont aussi souvent dépendantes des filières existantes. Ces filières nécessitent des équipements lourds, la massification entraînant des économies d'échelle, qui doivent être nourries en permanence. C'est le cas de l'incinération qui s'est considérablement développée depuis les années 70 et 1970 et permet la production de chaleur. Les villes équipées n'ont aucun intérêt à priver leurs incinérateurs de déchets. Dans d'autres cas, la méthanisation, qui consiste à dégrader les matières organiques par l'action de bactéries pour produire du biogaz, vient directement concurrencer le compostage des biodéchets. Or, ce procédé ne produit qu'une quantité limitée d'énergie et conduit à la perte d'une matière organique qui serait bien plus utile à l'agriculture. Et la priorité de l'utilisation agricole par rapport à la valorisation énergétique est pourtant inscrite depuis 2008 dans la hiérarchie officielle de traitement des déchets. Donc, que faudrait-il faire pour aller plus loin ? Elle répond, Madame Sabine Barthes, que outre la mise en place d'une filière structurée de valorisation agricole, le plus urgent est aujourd'hui de diminuer les quantités de biodéchets. De 20 à 30% des produits alimentaires sont perdus à différents niveaux de la chaîne. Une partie non négligeable du gaspillage intervient dans la sphère domestique et les services de restauration collective, mais beaucoup de pertes ont lieu plus en amont. Il serait nécessaire d'engager une réflexion sur l'ensemble du système agroalimentaire. Sur l'ensemble du système agri-alimentaire, j'ai un doute, je ne sais pas faire la différence. Ce qui n'est pas du ressort des collectivités qui gèrent ces déchets. Le recyclage, présenté comme l'alpha et l'oméga de la croissance verte, est une mauvaise réponse s'il est pensé en bout de chaîne, comme c'est le cas aujourd'hui. Une vraie stratégie de sobriété énergétique et matérielle suppose des implications économiques et politiques autrement importantes et une transformation profonde de la société. On en est encore loin, dit-elle. Bon, moi j'ai une petite question sur cet article. D'abord, agri-alimentaire ou agro-alimentaire, je ne sais pas si c'est une faute, une coquille ou le système agricole servant à l'alimentation. J'ai un doute. Puis d'autre part, à côté de chez moi, il y a l'incinérateur d'Ivry. Ils sont en train de le rénover en construisant un autre, et j'ai été surpris de voir que ce nouvel incinérateur avait une capacité moins forte que le précédent, alors que dans mon imaginaire, les quantités de déchets augmentant, c'est ce qu'on observe, il aurait fallu faire plus gros. Alors peut-être qu'ils ont en tête quand même qu'il y a des gens, quelque part, qui ont en tête cette diminution en se disant qu'il va y avoir les déchets alimentaires en moins. C'est possible, je ne sais pas.
C'est possible, oui, parce qu'ils disent que c'est important quand même. Hein, c'est un tiers, non. Oh non, quand même pas.
Ouais, qu'est-ce qu'elle disait, un tiers, il me semble.
Je ne sais plus. Oui.
Et il semblerait que, a priori, cette mesure de petite boîte à compost, ce soit totalement inutile. C'est pas forcément le.
Bah, nous, on a un petit jardin.
Oui.
À côté de l'immeuble.
Oui.
Qui borde l'immeuble. Et donc, on va se servir de ce qu'il y a dans ces bacs. Il y a plusieurs. Il y a des vers qui interviennent. Donc on va se servir pour faire de l'engrais.
Oui.
Bon, il y a maintenant sur les toits, il y a des cultures, ça peut servir là également. Je ne pense pas qu'en vendant de l'engrais, on va arriver à diminuer les charges qui devraient augmenter de 30% l'an prochain, m'a-t-on dit.
Bonne conclusion.
Mais moi, je fais depuis une période récente ce truc. Je mange beaucoup de légumes, donc au lieu de les mettre dans la poubelle, je fais une poubelle spéciale. Et puis je la descends une fois tous les deux jours, à peu près, quoi.
Mais ça, c'est spécifiste. C'est spécifique. C'est spécifique à la ville, ça.
C'est dans mon immeuble.
Parce qu'il y a 40 ans que ça aurait dû être fait, ça.
C'est des gens qui étaient intéressés dans mon immeuble. Et alors, tu mets un peu de ce que tes épluchures qui ont un peu mariné des ongles chez toi déjà, et tu mets une couche de je sais trop quoi par-dessus, une sorte de truc, ça doit être une sorte de bois, je sais pas exactement ce que c'est, mais on achète ça, et on en met, disons, une pincée par-dessus.
De la sûre, un peu de sûre, quoi.
Oui, de la sûre.
Oui, un peu de sûre de bois, voilà.
De la sûre assez grossière.
Ouais. Nous, à la campagne, on n'en a jamais mis, mais.
Et puis, on met des feuilles mortes aussi. Et donc, quand le bac est plein, on change les choses de place et on laisse les vers faire leur travail et jusqu'à temps que ça devienne une belle matière noire qui sent plus rien. Bon.
Moi, je vois pas ça bien à la ville. Je vois pas ça. Il faut, hein, parce que
moi, j'ai repéré, c'est sous le métro aérien.
Oui.
Il y a maintenant des bacs.
Oui.
Nouveaux qui sont là pour recueillir ces déchets alimentaires. Et là, on a le droit de mettre les os de lapin, poulet.
Ça, de toute façon, je ne les mets pas. Moi, dans le jardin, je ne mettrai jamais ça. Moi, oui.
Et on peut mettre les arêtes de poisson. Il y a un poisson qui est dessiné sur le truc. Donc là, on peut mettre beaucoup plus de choses.
Parce que j'ai peur qu'à la ville, moi, les gens. C'est les mecs de la ville, quoi. Hein, c'est pas. Je sais pas. Donc, je pense qu'ils sont capables de mettre des yaourts, des machins, des trucs qui vont pas, quoi. Que je mets pas, je sais pas, ça me viendrait pas à la tête de mettre des trucs comme ça dans les bacs, quoi.
Ah, mais là je. Les restes de fromage, par exemple.
Les
restes de fromage, je me suis pas posé la question.
Moi je mets tout ça.
C'est les produits laitiers.
Moi je mets tout ça. Moi je mets. Je parle à la campagne, hein, comme on a toujours fait, nous. Nous on met tout ça, on met du citron, on met de la peau d'orange, ça ne gêne rien du tout, la culture, hein, dans un jardin ou bien quoi. Ça, c'est. Quand j'entends toujours dire ça, non, les agrumes, faut pas les mettre, et puis tout ça, mais qu'est-ce que c'est que tout ça, c'est. Non, ça c'est. Alors par contre, ce qu'il faut, c'est enfin, ce qu'on fait nous à la campagne, c'est on met les trucs sans arrêt au-dessus. Quand on prend, c'est tous les ans, on prend qu'une fois par an, en plus, hein, puisqu'on fait une fois le jardin au printemps, quoi. Hein, donc, on prend en dessous, on prend surtout en dessous, parce que tout en dessous, c'est noir, c'est de la terre, c'est comme ça. C'est comme ça, alors on prend par en dessous. C'est une ancienne, c'est simple, donc on voit tout de suite la structure, c'est assez gros quand même, c'est une ancienne niche de chien. Mm-hmm. Voilà, c'est une niche de chien qui était en préfabriqué, comme ça, elle a encore toute la gueule avec l'entrée. Alors on peut ouvrir un truc devant la niche, parce que j'ai mis une planche moi qui descend. On ouvre la planche et par la niche, par la niche on se sert de ce qui est en dessous, par le bas. C'est par le bas. Et puis après on referme. Et au-dessus, nous on met rien. Et à la limite, faut, de temps en temps, faut arroser. Et puis faut un truc pour tourner. Faut toujours le bouger un tout et ça sent rien du tout.
Là, ça sent rien formidable, je vais vous laisser continuer la conversation jusqu'à 3h du matin. Là, je m'en vais. Je ne sers plus à rien, moi, dans cette émission. Allez, après.
C'est passionnant, quand même.
Ah, oh, bah oui.
Ce dont je ne me rends pas compte.
Mais on était toujours à l'antenne, non?
Oui.
Non, je rigole.
Ne ris pas trop.
Ce dont je ne me rends pas très bien compte, c'est est-ce qu'il n'y a vraiment rien de prévu d'autre que l'installation de ces poubelles et rien n'est prévu, ou simplement, ils n'ont pas fait de grande publicité sur le sujet, mais un plan général existe. Ça semble quand même assez inquiétant qu'ils se contentent de mettre des bacs.
Oui, c'est bizarre, oui.
Parce qu'ensuite, il faut bien les relever, ces bacs, donc ça va bien aller quelque part.
On compte sur toi pour suivre l'affaire de très très près.
Il y a un mouvement derrière, bien sûr.
Moi, je pense que tu vas même suivre un de ces fameux camions de ramassage et savoir où il va. Enfin, quand tu auras de nouveau une voiture. Mais bon, cette pollution-là, ce sera pour la bonne cause, ce sera pour l'enquête.
Ah oui.
Où vont les épluchures de patates?
Oui, on aura besoin de ça. Ouais.
Donc, nous comptons sur toi pour dans je ne sais pas combien de mois. Non, je plaisante.
Non, mais je ne suis pas enquêté pour savoir si certains types de pommes de terre n'ont pas des épluchures qui ralentissent le processus général.
On compte sur toi pour nous dire le fin mot de cette histoire. Et,
je dois dire qu'au prix de la pomme de terre au Monoprix à côté de chez moi, tant qu'il est encore ouvert, disons, au prix de la pomme de terre, je ne fais pas d'épluchures. Je mange les épluchures. J'ai beau ne pas être un porc ni un cochon, mais j'ai fait cure avec. Attends, c'est trop bon, les épluches.
Après cette passionnante conversation, en attendant de savoir...
Il ne reste plus qu'à lâcher des fleurs pour pouvoir mettre des
épluchures. Où vont mourir nos épluchures de patates, et en attendant les bio-sauts, et pas les sauts bio. Eh bien, pause musicale.
Glittering prizes I had them in my hand, but when I turned it down you didn't understand. But I'm feeling much better now, I've only just begun. Soon I know my day will come. Don't get me wrong, silver disc, I'll stick two fingers to fame. Don't cry for me, it's not a shame. But I'm feeling much better now, I've only just begun. And soon I know my day will come.
de Post-Non Radio Show, Radio Libertaire, l'émission du vendredi soir qui vous endort tout doucement avec des histoires de patates, de sauts bio et bon, il y a quand même la musique qui réveille un peu. Mais,
oui, c'est vrai.
Voilà.
Bien dynamique la musique.
Oui, les premiers morceaux sont un peu dynamiques. Il y avait. Ce soir, c'est CD en vrac. Mmh. C'est CD en vrac. On a commencé par Ultrasonic Grand Prix, puis Ty et Seyal, ce sont des nouveautés. Et enfin, une vieillerie des années 90, mais que j'adore, c'est Television Personalities, et reparu en 2018. Chez Fire Record, Hard Luck Story Number 39. Alors, quelqu'un a-t-il quelque chose à dire avant que j'annonce la nouveauté grandiose de cette émission? Non, je vais pas changer de chroniqueur, je vous rassure.
Non,
auditeurs vous adorent. Ils appellent sans cesse, ah là là, c'est quoi ces trois mecs là, le club des momies, dont celui qui tape tout le temps sur la table.
Ah. Ça peut être moi.
Suivez notre regard.
Bref.
Enfin, en radio, c'est un peu difficile de suivre le regard quand même. Hein. Voilà.
Alors oui,
apparemment. Moi, je vois que tu as le dernier numéro du Monde Libertaire et il y a pas mal d'articles sur justement le Hamas, tout ce qui se passe en Palestine.
C'est pas possible, tu vas nous faire un sujet de ce genre.
Je sais pas si, parce que l'article est assez
long.
Je l'ai pas préparé.
Je n'aime pas ce genre de sujet.
C'est le dernier des premiers numéros.
Alors moi, je peux commenter ce sujet avec un dessin de Aurel dans le Monde de vendredi 5 janvier, où il y a une personne qui s'adresse à une autre en marchant. La personne a des grosses lunettes et l'autre des petites lunettes. « Loin de moi, l'idée de vous dire quoi penser, dit-elle. Je vous souffle juste de quoi ne pas débattre. »
Non mais attends, ça s'adresse pas à moi. Hein.
C'est parce que les spécialistes du Moyen-Orient jugent leurs paroles déformées et dénoncent un débat impossible. Et donc, oui. Le titre de l'article, c'est « Guerre Israël-Hamas, les chercheurs sous pression ».
Voilà, c'est ce qui se passe un peu en ce moment.
Et donc les collègues.
C'est pour ça que nous allons éviter.
Devenus extrêmement prudents. Voilà, parce qu'en fait, ils n'ont pas les. Bon, eux, c'est des gens qui s'appuient sur des preuves qu'ils collectent eux-mêmes. Ils ne s'appuient pas sur les reportages de la télévision, disons, ou pas seulement. Et donc, la notion de preuve est quelque chose qui est important pour eux, avant de pouvoir s'exprimer.
Donc, ouais, Serge, tu aurais pu éviter de nous dire que...
Je ne comptais pas parler de ça.
De là où tu étais, tu voyais la couverture du Monde Libertaire du dernier regorger de ce genre de titre.
Oui, j'ai vu ça, oui. Mais on ne parlera pas de ça.
Donc mais si, ici, on a juste le droit de dire que Poutine est une grosse ordure, c'est tout.
Ça, oui.
Ah oui, ça, c'est...
C'est tout, on a juste...
Mais tu as... j'ai un communiqué, c'est un communiqué de l'international.
Un communiqué de la santé.
Un communiqué de l'international des fédérations anarchistes.
Allez, bon, vas-y.
Qui s'est passé début novembre, donc c'est il y a deux mois.
Ah, est-ce que tu ne l'avais pas déjà lu, ce truc?
Ah non. Non, ils ne l'ont jamais fait paraître, hein. ça vient de paraître là dans le...
Ah d'accord, ok.
Voilà, c'est signé le 22 novembre 2023.
Autant pour moi.
Alors donc, ça s'est passé à Athènes, voilà, issu du CRIFA d'Athènes, du 5 novembre 2023. Et ils disent ceci... Alors le comité de relations de l'International des Fédérations Anarchistes s'est réuni à Athènes les 4 et 5 2023 pour discuter et partager les réflexions et les pratiques de nos fédérations. Actuellement, nous sommes particulièrement actifs dans les activités antimilitaristes, dans une période caractérisée par l'intensification des guerres, dont les plus connues, comme les conflits de Gaza, d'Ukraine et du Soudan, ne doivent pas faire oublier la globalité du problème.
Il y a aussi le Yémen.
Oui, alors, ah oui. Alors, la guerre n'est jamais une solution, mais un moyen pour le capitalisme et l'État de reproduire des formes de domination, d'exploitation, de patriarcat, d'oppression. Et la guerre, bien sûr, est l'exacerbation de la violence du pouvoir et de la hiérarchie. Beaucoup de gens parlent de crimes de guerre, nous disons que la guerre est toujours un crime. Toutes les guerres sont comme le peuple et utilisent des arguments tels que le nationalisme, en opposant les peuples opprimés les uns aux autres, en essayant de créer l'illusion des intérêts communs de toutes les classes afin de saper les conflits sociaux par la propagande de guerre. Nous, anarchistes, nous nous opposons à tous les États, frontières armées et au principe même de souveraineté territoriale. Nous proposons nos idées de solidarité internationale en soutenant activement toutes les victimes des guerres et tous ceux qui refusent les guerres de tous côtés, que ce soit les objecteurs, les déserteurs, les saboteurs et personnes qui fuient les guerres. Nous soutenons toutes les actions antimilitaristes qui sont en accord avec nos principes anarchistes, de même que les groupes, individus, les collectifs qui résistent à la guerre en faisant du travail social, en aidant les gens, en promouvant les luttes sociales et en continuant à propager nos idées anti-autoritaires malgré la guerre. En plus de diffuser internationalement ces activités antimilitaristes comme un travail de contre-information devant la propagande de guerre à travers leurs journaux, radio et médias, nos fédérations promeuvent des activités telles que les journées mondiales d'action contre toute guerre et tout militarisme. Du 17 au 25 novembre, voilà. Et effectivement, à Publico, il y a eu une quinzaine antimilitaristes qu'on avait fêté du 5 au 26 novembre. Et l'Assemblée antimilitariste en Italie, elle s'est passée pour donner quelques exemples. Il y a un site pour voir où est-ce que ça a eu lieu et qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Ça, c'est le comité donc transmis par le comité de relations de l'International des fédérations anarchistes. Voilà le petit pavé ici.
C'est le CRIFA.
Vous voyez, sur une page. Le CRIFA, oui.
Le quoi?
Oui.
Ah, mais c'est pas le même CRIF que l'autre.
C'est pas CRIF, c'est...
Ah non, c'est pas le CRIF, c'est CRIFA.
On n'a pas dit CRIF.
Ah oui, CRIFA.
Ah, j'ai pas entendu le A.
CRIFA,
c'est CRIFA. Ouais. CRIFA.
Ah, mais ouais. Ne hurlez pas. Ça va, je suis pas sourd. Je suis peut-être bête, mais je suis pas sourd. Alors, quoi de neuf au sommaire de ce dernier monde libertaire, Guy?
Guerre à la guerre.
Ah, c'est sympa.
Voilà.
Oh, la super ambiance. Ah ouais. Ça donne envie, hein. Ça donne envie de fuir, surtout.
Oui.
Là, dans ce cas-là...
Ça donne envie de fuir.
Oui, parce que là, il représente quand même... c'est un petit peu dommage qu'il les représente avec le fusil dans le dos, parce que là, ils ont les fusils à la main.
C'est un lance-roquette, même. Hein.
Ah, c'est un lance-roquette. Ah, oui, là, oui, ça... si, oui, 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 donc... Oui. Au milieu, c'est parce qu'il y a la colombe de la paix, enfin la colombe, on dit. Voilà, c'est
ouais, bah la pauvre.
Mais oui, elle a l'air. Bah, effectivement, hein, c'est.
Oui, puis il y a une pression, donc pour ne pas parler, et en parler quand même de cet article du Monde, il y a une pression, en l'occurrence des organismes de tutelle du CNRS, une pression de la part de Sylvie Retailleau. Sur le CNRS, ce qui fait que la ministre dit l'article qui ne cite aucun exemple de sa lettre rappelle que le gouvernement français affiche, etc. Les gens ont un peu peur parce qu'il y a un petit peu de délation qui se crée.
En gros, il faut choisir son camp.
Tout ça est un petit peu souterrain.
Et si tu choisis pas le bon, eh bien on te tape dessus parce que c'est pas le bon.
Je peux, si j'arrive à retrouver ce truc que j'ai cherché pendant 5 minutes.
On va faire une pause avant.
Non. Mais c'est pour montrer comme le sujet est difficile à aborder. Bon, en fait, c'est des chercheurs, et donc il faut laisser la liberté de chercher.
Oui, ensuite, on a l'impression qu'ils sont indépendants.
Normalement, ils sont indépendants, mais là, il y a une petite pression quand même.
Ah oui.
Donc, les collègues s'autocensurent, dit le directeur de l'Institut de recherche et d'études sur les mondes arabes et musulmans. Les collègues s'autocensurent et sont devenus extrêmement prudents. Bon, je comprends qu'il y a une prudence, mais quand ils s'autocensurent, ça commence à faire beaucoup. Ceci dit, pour pouvoir... j'en ai assez dit, ça va.
«
Récemment, c'est mon tour là.
Oui,
de...
ouais.
Récemment, j'ai acheté une revue qui traitait d'un sujet bien précis. Et ça m'a fait penser à un livre qui dormait sur une étagère. Et je me suis dit que ça serait peut-être une bonne idée de finalement en faire une sorte de feuilleton. Feuilleton qui pourrait durer extrêmement longtemps dans la durée, en fait.
Un temps infini, quoi.
Un temps presque infini.
Ah.
Et ce livre... Enfin, cette revue et ce livre traite finalement d'un sujet qui est désormais toujours un peu dans l'actualité, on va dire, qui est ancien, mais qui est toujours présent. Il s'agit de la conspiration, des complots, du complotisme. Ce bouquin, et il y aura bien d'autres sources comme cette revue, comme des articles, etc. Ce bouquin s'appelle « Illuminatus, l'œil dans la pyramide ». C'est un livre de Robert Shea et Robert Anton Wilson. Alors, je reviendrai plus tard sur divers points. Si j'en parle pas maintenant, j'en parlerai donc plus tard. Ce feuilleton étant destiné à durer, bref, une petite dizaine de minutes à chaque émission, donc il y a le temps, puisque je serai là sur cette radio, sur cette antenne, jusqu'en 2056, et j'aurai donc tout ce temps là jusqu'en 2056 et même qu'un plus tard d'approfondir. Donc on reviendra sur qui sont Robert Shea et Robert Anton Wilson. Ce sont deux Américains, donc, qui ont écrit ce Illuminatus Trilogy Part 1 de Eye in the Pyramid. C'est l'exemplaire que je possède. Il y en a trois qui sont parus. Le tome numéro 2 s'appelle La Pomme d'Or, The Golden Apple. Et le tome 3, Léviathan. Celui-ci n'est pas paru en France. Le dernier n'est pas paru en France. Ils ont été publiés en 1975 aux USA, donc déjà la conspiration était à la base un thème qui prend naissance dans la contre-culture, on va dire. En tout cas, pour ces deux écrivains, dans la contre-culture, puis peu à peu, ces thèmes, les complots, la conspiration, alors il faut se remémorer que Kennedy a été assassiné quelques années avant. L'assassinat de Kennedy est un des nombreux thèmes, une des nombreuses histoires sous histoires de ce vaste ensemble qu'en général on associe emblématiquement à la pieuvre à cause de tous ses bras et de ses ramifications. Bref, ce livre, cette trilogie donc, émerge dans la contre-culture américaine, et puis peu à peu ces sujets vont essaimer dans la culture tout court, la culture mainstream, jusqu'à devenir ultra populaire avec des séries comme X-Files ou un tas de clips, etc. Ce livre est paru en France aux éditions La Librairie des Champs-Élysées en 1998, donc quasiment 23 ans après. Donc, alors, petite aparté, j'ai recherché sur Internet, alors je ne sais pas du tout où j'ai trouvé ce livre. Je pense que j'ai dû le trouver dans une brocante ou je ne sais trop où. Je n'ai aucun souvenir de la provenance du livre. Et j'ai donc cherché sur Internet, voir si on pouvait trouver le tome 2 et le tome 2, surtout puisque le tome 3 n'est pas paru en France. Et en fait, il est vendu extrêmement cher. Et les deux tomes, le 1 et le 2, peuvent atteindre des sommes. J'ai cru à une blague au début, mais sur des sites comme eBay, Rakuten ou Amazon, ça démarre à 75 euros pour ceux qui le possèdent vraiment et qui où le site l'annonce notifie qu'il est bien présent, jusqu'à 400 et 600 euros. Ouh. Alors ce livre est culte aux États-Unis et culte dans le monde anglo-saxon. Ça on verra après ce qui on verra après dans d'autres épisodes quand je parlerai de Shea et Anton Wilson. Donc c'est peut-être le pourquoi de ces prix absolument incroyables. Alors que moi, l'exemplaire que je possède, il est tout chiffonné, tout le dessin de la couverture est absolument hideux. Hein. C'est une espèce de c'était les débuts de l'informatique, enfin de d'image informatisée numérisée. C'est la couverture est très laide. Que nous dit la quatrième de couverture? Ceci: nous sommes partout. Nous sommes George Washington, Lee Harvey Oswald, Bugs Bunny ou Lovecraft. Nous sommes le féminisme, le communisme, les francs-maçons et les templiers. Eris, déesse de la discorde, nous guide depuis la nuit des temps vers le chaos sacré. Car nous sommes la fin et le début. L'unification par la destruction. Sexe, drogue et rock'n'roll, nous sommes la seule liberté. Anarchia. Riez, fumez, dansez, soyez fous, le monde est à nous. Voilà donc l'accroche pour ce roman. Hein. C'est pas du tout un essai. C'est pas une étude, c'est pas un essai. C'est pas un travail de recherche, de chercheur qui aurait, bien qu'il soit lié des sources. C'est un mélange de sources réelles et de délire. C'est bien ça, c'est entre Bugs Bunny, James Bond, l'action et... Enfin, oui, l'action. L'action du livre est complètement... le monde qu'il décrit est complètement... Enfin, ça se passe... supposément dans la réalité de 1975 aux États-Unis, est complètement délirant. Et je reviendrai, bien sûr, comme je l'ai déjà dit, mais la répétition fait partie du message. Ça commence par... Alors, j'introduirai au fur et à mesure des personnages, il y en a des tas... qui se répondent les uns aux autres, et je lirai entre autres soit leurs réflexions sur certains sujets, soit des notes qu'ils retrouvent qui s'appellent le projet Illuminati, écrites par une certaine ou un certain Pat et qui sont adressées à JM, Joachim Malik, son rédacteur, son chef. Là, je vais juste planter le tout début, puis après, au fur et à mesure des épisodes, on verra tout ce qui s'y dit, tout ce qui s'y passe. Vous allez voir, c'est passionnant. On commence par... le premier chapitre qui s'appelle « Keter ou le premier voyage » de Dele Plaza au Watergate. Et alors Keter, alors il y aura beaucoup, énormément d'apartés parce que je donnerai quelques indications quand même sur tout ce qui est raconté. Keter, donc, que je retrouve mes notes. Keter, c'est la couronne en hébreu. C'est dans l'arbre de vie. Donc, dans la Kabbale, l'arbre de vie. Je sais plus si c'est la Kabbale. En tout cas, c'est la première des séphiras. Il y a plusieurs séphiros. Je ne sais pas si vous voyez l'arbre de vie. C'est un espèce d'arbre avec des boules. Donc, c'est dessiné, c'est symbolisé tel quel par ces boules. Keter, c'est la couronne. Donc, et c'est la séphira qui fait donc partie des séphiros. Séphira, c'est au singulier, séphiro au pluriel, qui est la plus élevée dans l'arbre de vie. C'est une énergie secrète, divine, infinie et créative. Donc ça nous pose déjà le tableau. Et ça commence par une pensée de Lord Omar Kayan Ravenshurst. Alors, tiré de son livre, le livre des prédictions, le livre franc de la vérité. Le livre franc de la vérité. Alors donc, ne pas confondre Lord Omar Kayan Ravenshurst, qui n'est pas Omar Kayan,
non.
Le poète savant perse du XIe siècle.
Ouais.
Lord Omar Kayan Ravenshurst, c'est un pseudonyme de Kerry Wendell Thornley, qui est né en 1938 dans une famille mormone. C'est également très important. Et ce monsieur Thornley, il est avec un autre, dont je n'ai pas noté le nom, pour pas trop nous perdre, justement, un des fondateurs ou un des suiveurs du discordianisme. Comme dit dans la quatrième de couverture, qui est consacrée à Eris, déesse grecque des conflits et de la discorde. Et c'est une religion, on va dire, parodique. Pour eux, pour les discordianistes, ordre et désordre sont des illusions imposées par l'univers au système nerveux humain qui n'est pas en capacité de vraiment objectivement et précisément saisir la différence entre l'ordre et le désordre. Mais on reviendra sur le discordianisme puisque Robert Anton Wilson est un discordianiste également et il en a fait des conférences, etc. Alors, pour cet épisode-ci, le numéro 1 des 3223 qui vont suivre jusqu'en 2056. Voici déjà une première réflexion. Des sages ont décrit le monde comme une tragédie, une farce ou un tour de magicien. Mais tous, quand ce sont de vrais sages et non de simples forbans intellectuels, reconnaissent que c'est incontestablement une sorte de théâtre, ça vous l'avez déjà entendu, dans lequel chacun d'entre nous tient son rôle. la plupart du temps sans avoir reçu d'indication claire, ni pris connaissance du texte avant le lever de rideau. Et là, j'introduis un des multiples personnages de ce livre, Rukma Fubar, qui se réveille, et c'est le début de l'histoire, à Nairobi, au Kenya, et qui, entre autres choses, est une sorte de sorcier, dont le passe-temps, un des passe-temps, et de piquer des aiguilles dans des poupées de chiffon qui sont censées représenter les chefs d'État de certaines puissances. Et ces puissances sont les États-Unis, la Chine et la Russie. Mais ça sera raccordé à d'autres éléments plus tard, etc. Alors, voilà. Donc, Fubar est réveillé. Et on lui annonce, et c'est Saul Goodman, un autre personnage qui est un policier, qui va commencer à mener l'enquête avec son pote Barney Muldoon, parce qu'il y a eu un attentat. Et là, on est à New York. Il y a eu un attentat dans une tour et au 16e, 17e étage a explosé une bombe. Et ces locaux appartiennent au journal d'extrême gauche, La Confrontation. Et donc, dans les débris de l'attentat et de l'incendie qui commence, ils trouvent une caisse dont ils s'emparent comme preuve. Et là, je suis mes notes puisque c'est très dense. Hein. Et entre-temps, on nous dit que depuis quelque temps, il y a une résurgence de troubles sociaux dus à des crises d'anxiété mystique et de délires psychiatriques et paranormaux. Donc, dans cette caisse, il trouve ces fameuses notes de cette fameuse patte ou de ce fameux Pat adressé à Joseph Malik, qui, apprend-on par la suite, a disparu depuis quelques jours, puisque son propriétaire s'est rendu compte qu'il avait laissé ses chiens seuls dans l'appartement.
C'est les mille et une nuits que tu nous fais là.
C'est les mille et une nuits de la conspiration. Alors, deux notes essence raffinée pour ce soir du projet Illuminati, note numéro 1. Elle est datée du 23 juillet. C'est très important, les dates. La première référence que j'ai trouvée provient du Violence de Jacques Ellul, paru en 1969. Il est dit que les Illuminés furent fondés par Joachim de Flore au 11e siècle et qu'ils prêchèrent d'abord une doctrine chrétienne. Et de pauvreté et d'égalité, excusez-moi.
Oui, tu sembles avoir un petit problème technique.
Non, c'est mon fond sonore.
Ah.
Donc, je reviens. Joachim de Flore au 11e siècle et qui prêchèrent d'abord une doctrine chrétienne, donc j'ai dit de pauvreté, d'égalité, je me rattrape aux branches.
Parce que c'était voulu, ce fond sonore, avec des gratouillements, c'était voulu.
Par la suite, au XVe siècle, sous la direction de Fra Dolcino, ils devinrent violents, pillant les riches et annonçant l'éminence du règne de l'esprit. En 1507, conclut le livre, ils furent vaincus par les forces de l'ordre, entre guillemets, à savoir une armée commandée par l'évêque de Verteuil. Il ne fait aucune mention, d'un quelconque mouvement des Illuminati au siècle précédent ou à une époque plus récente. J'en saurai davantage plus tard dans la journée. PS. J'ai trouvé quelques renseignements complémentaires sur Joachim de Flore dans les archives de la National Review.